est là, Gadon Bonadi, Morgane, Cadignan, Fanny, Rui, un homme, Tanguy Bassureau. Et nous recevons aujourd'hui Jonathan Lambert et Agnès Hurstel. Ça va être dur.
Pour une super série, ça va être super facile.
Ça va être dur parce qu'on les aime, deux, la série est géniale. Donc ceux qui râlent d'avance en disant « Mais oui, mais vous êtes toujours là, dans la bienveillance, dans le ceci, dans le cela. » Eh ben cassez-vous, parce qu'on va l'être bien...
Nagui dans les couloirs, c'est une petite...
Ah oui, mais à l'antenne.
Ah oui. Mais non, on a invité Agnès et Jonathan parce qu'on a trouvé la série super.
Clairement.
Très sincère.
Clairement. Voilà. Il y a zéro favoritisme, mais il y a que de l'admiration et de l'amour pour ce travail jeune et galerie. On en parle dans quelques instants, mais d'abord.
Leïla.
Ouais.
Johnny.
Qui?
Bah, l'idée.
Oui, mais quelle chanson?
L'idole des jeunes.
Ah, on part sur la jeunesse.
Souvent me guette.
C'est pas galerie.
Dommage.
C'est des chansons avec
pas Lambert dans les chansons.
C'est pas quoi?
Lambert dans les chansons.
Gérard Lambert.
Ouais, super chanson.
Gérard Lambert quand tu répares ses mobilettes.
Qui chante?
Morgane.
Mes copains sont Leïla.
Ah bah Renaud, je
Leïla.
Ah pardon.
Évidemment.
Moi je dis comme ça sans
comprendre. C'était avec Gérard Lambert en plus.
Alors pour moi, je suis une bande de jeunes. À moi tout seul.
Allez, bras dessus, bras dessous, les amis.
Je le prends la gueule.
J'ai changé de partenaire.
La fort du on est à la fort du trône aussi un peu, non?
Un peu, hein.
Deux points pour Leïla. Qui chante ça?
Leïla, regarde Fanny. Leïla.
Ouais.
Moi j'ai eu un Morgane.
Moi je dirais Morgane, mais c'est parce que je l'aime.
16.
On dit ça 16.
Mais j'ai jamais su.
Jeune et fou, ils sont vieux et fous.
Ah, j'en ai débridé des scooters là-dessus. En roulant sans casque.
Non,
était jeune et con.
Avec modération.
Mais je trouve qu'on attendait beaucoup de ce monsieur et que finalement il est resté scotché à jeune et con.
Ouais.
Et alors qu'il envoyait du bois.
Il y a eu un peu Jeunesse France.
Il continue
Il continue.
J'ai eu pas mal d'albums, pas mal de disques.
Ouais.
Attention, qui chante ce titre?
Ah bah Tanguy, David Bowie bien sûr, Young American.
Mais non. Oh bah Tanguy bien sûr,
pardon,
qu'est-ce que
mais
vous
c'est
êtes
juste que David Bowie, je connais à peu près toutes les chansons quoi, voilà. C'est, le bien sûr c'était pour moi, c'était pas pour les autres.
Donc je sais pas qui est de l'anglais.
Je me mets.
Moi, il y en a une que j'attends.
Non, laisse-la-moi.
Ne dis rien.
Laisse-la-moi.
On sait.
Une avec jeune. À côté de laquelle je serais passé, tu veux dire?
Non.
Qui chante ça?
Fanny.
Moi, je connais
Fanny,
ça.
Fanny, c'est Lana Del Rey?
Non.
Non.
Ça ressemble en effet.
Ouais,
Morgane,
ouais. Wasting My Young Limbs. London Grammar.
Non, c'est pas le.
Oui, si, c'est Wasting My Young Limbs.
Oh putain,
oui, mais qui chante
London Grammar.
Joli.
Je l'ai mérité ce point.
Ah,
c'est quoi le titre?
Wasting My Young Years.
Gaspiller mes années de jeunesse.
Qu'est-ce que je fais ici?
Ils seront dans Taratata London Grammar avec Texas.
Ah ouais.
Ouais. Et Adrien Gallo, le chanteur
des Bébés Brunes,
qui a fait un album solo.
Ouais, qui est chouette. Il y a des duos avec Vanessa Paradis.
Exactement.
J'aime bien cet album.
Tu te tiens tellement
Tanguy.
Au courant.
Ah, arrête, Adrien Gallo, j'aime jeune
bien,
au fond.
J'aime
bien. Un point pour oui, Tanguy, un point pour Morgane, trois pour Leïla. Qui chante ça, hein?
Leïla.
Ouais.
Attends. Non.
Trop tard. Qui?
Les graisses vertes.
Non.
Tanguy au hasard, Henri Salvador.
Exactement.
Au hasard.
Non,
oh là là.
C'est pas faut rigoler. Mais c'est rapport avec la jeunesse.
Galerie.
C'est
ça qui m'a trouvé.
Galerie. Jeune et galerie.
Moi je te parle pour salade de fruits en plus.
Ah oui, bon,
joli,
vilain.
Joli.
Salade de fruits.
C'est le seul que j'avais sur rigoler. Hein. J'ai pas trouvé d'autre.
Joli.
Tout se joue maintenant. 3 points pour Leïla, 2 pour Tanguy, 1 pour Morgane. Comment ça va, Fanny?
Bien.
Il se joue maintenant. Donc 4 points dans ce blind test.
Morgane.
Ouais.
F-U-N. Mm.
Ah non, Tanguy,
Fanny.
C'est.
C'est fun.
Ouais,
oh,
ouais, voilà.
C'est We Are You.
Bravo. Oui.
J'ai eu 3 points, Agnès.
Et j'attendais Jeune Demoiselle de Gamme.
Mais non, Forever Young de Bob Dylan.
C'est Morgane qui a gagné là.
Bah oui,
c'est ça va.
Mais t'as tellement raison de le souligner.
T'as pas 12 chroniques écrites.
C'est le seul mec. Avant de partir, applaudissons d'abord Morgane Cadignan pour sa victoire. Et Agnès sur Stel et Jonathan.
France Inter, la bande originale avec Nagui.
R, Jonathan Lambert, je tiens à le préciser, ce R de Rodolphe, il nous l'avait déjà expliqué à ce micro, c'est pour ça que je veux le rajouter. Agnès et Jonathan, on a commencé par vous complimenter avant même que vous soyez là. Bonjour, parce que c'est pas de l'entre-soi, c'est pas du piston, c'est pas du favoritisme, c'est de l'admiration pour Jeune Égolerie. Tellement c'est dingue, tellement c'est drôle. Vraiment, c'est une réussite. Elle est née de quand exactement cette série
dans... En avril 2018. J'étais déjà ici. Non, j'étais pas encore ici.
Si.
C'est juste avant que j'arrive ici.
Si, si.
Quelques mois
avant. Il y a trois ans
ici.
Donc. Ouais.
Je suis arrivée en août 2018 ici. Non.
T'es arrivée quand on n'était pas là donc.
Ouais.
C'est en août.
Le 28 août avec Alex Putz. Non, c'est arrivé parce que j'étais belle-mère d'un chat. J'étais belle-mère d'un chat.
Mais oui, c'est vrai.
On avait fait une chronique un jour.
Zlatounette.
Ouais. Et je me disais, c'est ça, Zlatounette. Je me disais, mon père me disait, estime-toi heureuse, sois pas une enfant. C'est un chat, donc un chat c'est cool, un chat ça meurt. Et donc c'est ça la genèse de ce truc.
C'est la première vanne, c'est ton père qui l'a trouvé en fait.
Ouais.
D'accord. après, il y a eu Garde partagée de Zlatounette aussi.
Oui.
Et on retrouve cette idée de garde partagée. Quand Agnès est venue vous présenter cette idée, Monsieur Lambert, comment avez-vous réagi d'abord et qu'est-ce qu'elle vous a dit?
Alors, elle n'est pas venue me la présenter. En fait, c'est
mon agent
la série.
Reçu.
Voilà, mon agent a reçu la série que j'ai lue. Je me
vous ne vous connaissiez pas avant?
Du tout.
D'accord.
Non, enfin, non, si non, on s'est croisé à un plateau.
Ouais.
C'est
non,
ça hein
non.
Ah bon?
Bah non.
Pas
on s'est croisé à Deauville
de
à un festival.
Oui, ça je le reconnais, j'avais oublié, mais sur le plateau de 60 secondes. 60...
Ah oui, c'est vrai.
Ah voilà, chacun a son oubli.
Non, mais
chacun
veut
oublier sa lecture de l'histoire.
Il y a quelques années, quand je t'ai croisé à ce festival, je me suis dit c'est Francis.
Oui, ça, enfin, je dis oui, mais
le personnage de la série.
Parce que c'est Jonathan, mais c'est Francis. Oui. Voilà.
Et moi, j'ai lu la série c'est vrai que j'ai bingé pour le coup la série en lecture. Et je m'en souviens très bien, puisque il y avait un parfum un peu apocalyptique. C'était le vendredi 13 mars 2020.
Celui du confinement, celui de l'annonce.
Deux jours où ça commençait, on savait que.
Non, le vendredi tout fermé, les bars, les théâtres, le vendredi 13, tout à fait.
Ah, bah voilà, je l'ai lu ce jour-là, le matin, en rentrant d'un festival qui était au Menuire, je crois, donc j'ai pris le train, j'ai lu ce truc-là, et il y avait quelque chose d'extrêmement agréable, je me marrais seul en lisant, et je voyais tout le monde avec sa capuche, remontant son écharpe pour se protéger,
inventer des masques de fortune avant qu'ils ne soient
en tout le monde qui se regardait, qui s'épiait en se disant, ça se trouve là, ça se trouvait là, machin, donc il y avait vraiment un truc assez bizarre dans ce train, et donc j'ai ce souvenir impérissable de lire la série, et ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai évidemment tout de suite adoré, et j'ai dit, je veux absolument faire les essais.
C'est la même chose pour nous, hein, c'est-à-dire que 8 épisodes, mais moi je me suis dit un soir, allez, je commence, mais en fait, je suis pas allée me coucher, donc je n'avais pas fini. Parce qu'en fait, c'est d'ailleurs, je suis nostalgique, il va falloir faire quelque chose pour la saison 2, Agnès.
Okay.
Parce que moi, j'ai perdu une bande de copains finalement, parce que ce soit Francis, que ce soit ton personnage, celui de Marie Papillon, celui aussi de Paul,
moi.
Mais c'est vrai, cet enfant aussi est très attachant, on se met à aimer des enfants, c'est fou.
Il faut préciser que la série n'est pas recommandé pour les moins de 10 ans parce que on voit Paul Mirabel torse nu et c'est vrai qu'il ne faudrait pas choquer toute la génération.
Monsieur Lambert.
Et pas que les fesses de Monsieur Lambert. Je préfère voir les fesses de Monsieur Lambert que le torse de Paul Mirabel.
Moi, je préfère celle d'Agnès. C'est toujours une question de point de vue. Hein.
Elles sont là aussi.
Oui, mais moi, je ne pouvais pas me permettre de le dire.
Voilà, c'est pour ça qu'on est deux.
Voilà.
Ça évolue.
Chacun ses fesses.
T'as vu? C'est la parité.
Jeune Égolerie avec Agnès Surstel et Jonathan Lambert, on va continuer d'en parler, mais évidemment, nous sommes ravis de vous accueillir. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Morgane Cadignan est là.
Allez, ça va pas être facile maintenant. Très dur.
Il va falloir, Morgane, que tu nous expliques à quel point tu n'aimes pas Agnès ni Jonathan.
Bon, alors là, c'est simple, les deux, je peux pas vous sentir. Déjà parce que j'ai le nez bouché. Et ensuite, vous vous rendez compte que je travaille, que je peux pas binger des séries sans dormir toute ma vie. La série est sortie sur OCS le 2 septembre vers 11h du matin. Et je l'ai terminée le 2 septembre vers 3h du matin. Et encore, j'ai fait des petites pauses pour aller faire pipi. Je me suis fait plus avoir, c'est fini. La dernière saison de Succession, ça m'a coûté 2 canapes. Donc maintenant, je fais gaffe. Et franchement, je dis pas ça parce que c'est la famille, t'as vu. Avec Agnès, on fait le même métier, on tend un peu à jouer dans les mêmes lieux et avoir des projets qui se ressemblent, donc ça serait tellement plus simple pour moi que ça soit un peu bof. Et tu fais chier, quoi. Mais voilà, non, mais la meuf, elle fait 1m35, elle a quand même réussi à mettre la barre hyper haute, quoi. Donc au lieu de tenter de passer au-dessus cette année, je vais choisir l'option Limbo pour le moment, si ça vous va. Cette série m'a fait me poser 2 grandes questions existentielles. La première, est-ce que je serais capable d'être belle-mère d'un enfant? Et la deuxième, est-ce que Jonathan Lambert est sexy? Donc, mais revenons à la première question si vous le voulez bien, parce que pour la deuxième on a des yeux et la réponse. Donc c'est dur d'aimer un enfant qui est pas le tien. Déjà quand c'est le tien, parfois c'est pas évident, c'est un peu comme un plat au resto, tu l'aimes parce que c'est toi qui l'as commandé, donc maintenant qu'il est là, on va pas le renvoyer. Mais quand même, celui du voisin il a l'air meilleur, non? Et puis le plat du jour du voisin, il chie pas dessus dans l'avion. Déjà ton propre enfant, j'en ai pas, mais ça doit être compliqué. C'est un long chemin la parentalité, un chemin sur lequel tu dois faire des pauses très souvent, parce que vous vous refilez la gastro tous les 100 mètres en circuit fermé. Les places en crèche d'ailleurs devrait être distribué avec un petit baluchon de smecta. Et donc apprendre à aimer un enfant parce que t'aimes son père ou sa mère, mais on parle toujours de l'acceptation du beau parent par l'enfant, mais absolument jamais du contraire. Ouais. Et c'est dur pour l'adulte aussi. Toi t'as rien demandé, tu tombes amoureuse d'un mec, t'as 3 papillons dans le ventre et plus ou moins pas envie qu'il parte tout de suite le matin. Et ça y est, tu te retrouves à démêler des cheveux qui sont pas les tiens. Mais on est où là? Ça va dans les deux sens. C'est dur d'apprivoiser un gosse Fanny Ruet. Ça m'a bien mis un an et demi avant qu'elle arrête de hurler dans les centres commerciaux, quoi. Moi j'ai eu une belle-mère. Ma propre belle-mère. Elle était jeune. Elle a connu mon père quand elle avait 25 ans. Et si je voulais la blesser, l'argument ultime, c'était le légendaire « mais t'es pas ma mère ». Et elle me répondait « bah non, et alors ?» Et je répondais « bah j'avoue, je sais pas ». Et à partir de là, on s'est aimés, toutes les deux, par manque de répartie, tout simplement. Et qu'est-ce que c'est bien une belle-mère quand tu veux aller acheter des soutifs, parce que les boutiques avec ton daron qui demande à la vendeuse si le frère de Princesse Tam Tam s'appelle Prince Tom Tom. À un moment, c'est long. C'est bien pour ça une belle-mère, les amis. Ça fait une personne en plus qui lève les yeux au ciel quand ton père est lourdingue et ça fait du bien. Ta belle-mère, c'est pas vraiment ta mère, c'est pas vraiment ton père. Tu sais pas vraiment comment l'appeler, donc tu donnes souvent un petit surnom entre les deux. Moi, la mienne, c'est Loulou. D'ailleurs, je l'embrasse aussi fort qu'elle m'a aimé. Et parfois, je lui dis encore que c'est pas ma mère et elle me répond encore. Et alors? Avec un ton qui veut dire que ça change rien du tout. Parce que c'est comme cette série. Au bout du compte, c'est que de l'amour.
Ouais. Trop bien.
Ah la chialade. Ouais. Vous pouvez pas venir. Hein.
Ouais. Ouais.
Non mais la musique est super aussi.
Oui.
C'est Meryl.
Ça c'est Pierre Leroux.
Qui a été primé, hein, il faut le dire, parce que
série Mania,
moi j'aime bien. C'est vrai qu'elle a un rôle très important, la musique.
Meilleure musique à Série Mania et aussi meilleure série
française.
Ouais.
Énorme. C'est mérité, c'est mérité. C'est
Série Mania, c'est une référence en plus, ouais, complètement.
Cette musique, parlons-en, parce que la musique, l'habillage, les idées de réalisation, on est dans les comédies un peu années 70,
ouais,
nostalgiques, c'est ça?
Ouais, c'est vraiment ce que je voulais. J'étais sûre que dans le graphisme et dans la musique, on pouvait rajouter de la comédie. Et c'est vrai que mes références, c'était un peu François de Roubaix, Vladimir Cosma. Et dans le graphisme, non, enfin là je vous parle de la musique, mais j'étais sûre que chaque élément en post-prod pouvait rajouter de la comédie, et que ça voulait pas dire qu'il fallait souligner la modernité, genre en mettant forcément que du rap ou que des trucs qui ont l'air dans les effets modernes. J'étais sûre aussi que si on passait par un côté un peu 70s, un peu rétro, ça... En fait, le côté désuet rajoute de la comédie.
Mais y compris dans les vannes, c'est-à-dire qu'il y a des vannes extrêmement actuelles. Il y a un ton qui est clairement jeune dans les caves de stand-up. Et il y a des vannes de vieux.
Bah, les blagues de Francis.
Ouais. Il y a des vannes de vieux. Non, je pense à la série sur les sur le taiseux. Il y a une série de vannes où on se dit mais elle a quel
les
âge
blagues,
ça,
les blagues
elle a,
de papa quoi.
Elle a quel âge cette vanne? Sauf que le tout pour la vanne permet d'aller tellement loin qu'on finit par craquer et rire.
Et d'ailleurs, il finit en impro et c'est la meilleure. Et oui, mais c'est les blagues de nos papas quoi.
Non, mais c'est ça. C'est aussi tout pour la vanne. C'est-à-dire que quand il y a une vanne qui est un peu limite, il faut quand même insister et aller le plus loin possible pour
de toute façon,
assumer.
Il y a deux comiques, hein, le comique de répétition et le comique de répétition. Donc c'est un peu ça, c'est d'enfoncer le truc. Non mais c'est cette rencontre qui effectivement... Enfin, moi ce que j'ai aimé, c'est, comme elle le dit souvent Agnès, d'accepter de devenir adulte. En fait, c'est vraiment le cœur de la série et ça passe aussi par l'humour.
C'est que cette phrase est présente deux fois et n'a pas la même résonance.
Ouais. Et c'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser d'ailleurs à tout âge, parce qu'il y a des moments où à 50, 60 piges, on peut rester très gamin sur...
On joue à l'adulte.
Parce qu'on n'a pas envie d'affronter les choses. Et à l'inverse, sur certains points de vue ou sur certains trucs de la vie, on veut être adulte et à d'autres moments, on refuse.
Alors rentrons maintenant dans le vif du sujet. Ça se passe dans le milieu du stand-up, dans le milieu des humoristes. En devenir, c'est-à-dire cette image d'être dans une cave et de tester des vannes pendant une dizaine de minutes ou un quart d'heure, et puis en suivant une espèce de planning écrit sur des ardoises, en peut-être piquant des vannes aux uns et aux autres, en les notant au fur et à mesure, et en les testant pour voir si ça mérite d'être un peu plus écrit et d'aller un peu plus loin, en espérant toujours qu'il y ait un producteur, une productrice qui passe par là et qui dise « je vais investir » ou « je vais te faire passer à la télé » ou « je vais te présenter quelqu'un de connu qui va te marrainer ou te parrainer ». Je dis « marrainer » parce que c'est Florence Foresti en l'occurrence qui est comme ça, l'espèce de fantôme de l'humour qui plane comme étant la déesse dont on attend juste un signe pour réussir sa carrière. Ça, c'est la toile de fond. L'autre côté plus humain, qui pourrait se passer dans n'importe quel milieu, celle d'une jeune fille qui tombe amoureuse d'un homme plus âgé qu'elle. Elle devient belle-mère, ne sachant absolument pas comment s'en sortir. Et les rapports avec cet enfant vont se nourrir mutuellement, au-delà des différences d'âge entre l'homme et la femme. Et c'est la petite fille qui va nourrir la grande, sauf que le problème, elle va la nourrir humainement, affectivement, et la faire devenir peut-être belle-mère ou quelque part adulte. Mais elle va surtout la nourrir en termes de spectacle. Et là arrive cette gêne, c'est-à-dire quel est le filtre qu'il y a entre la vie professionnelle d'humoriste qui balance des vannes et ce qu'ils n'en disent pas trop, ou est-ce qu'ils se moquent pas au risque de blesser des gens de leur entourage parce que c'est un sujet à vannes, c'était trop drôle et bing, j'ai envoyé.
Ouais.
J'ai résumé.
Hyper bien résumé. Il y avait une question, non?
Surtout, non, mais surtout. Non, mais ce qu'il faut ajouter, c'est qu'ils ne le savent pas.
Oui, c'est la trahison.
Donc, c'est une forme de trahison, mais c'est quelque chose de très personnel, puisque à ce moment-là, quand elle monte sur scène pour un peu vider son sac, puisque c'est un peu un exutoire de tout ce qu'elle vit tous les jours, elle le fait parce que ça lui fait du bien, mais à ce moment-là, les victimes, entre guillemets, potentielles, ne le savent pas. Donc, à quel moment sa propre conscience se dit, est-ce que c'est mal de faire rire avec
elle? À quel moment sont-elles blessées? Ou pas quand, voilà, quand elle découvre qu'on se moque d'elle ou qu'elle est sujet d'un sketch. Morgane.
Et où là où c'est hyper bien fait, c'est que nous, c'est une question, enfin on en a déjà parlé avec Fanny, qu'on se pose tous en tant que stand-upper, à quel moment
la belle-mère,
tu... Ouais, mais à quel moment tu trahis ta famille ou tes amis en racontant des trucs, et est-ce que le rire est plus fort, et souvent tu finis quand même par le faire.
De toute façon, c'était vraiment l'enjeu.
Juste attendre qu'il meure.
Aussi, mais ça, du coup, comme ça prenait, c'était une série trop longue, mais ce sera la prochaine. c'est l'enjeu de cette série. La toile de fond, comme tu dis, l'arène, c'est le stand-up parce que c'est la jungle que je découvrais à ce moment-là et que ça me fascinait. Le prétexte, c'est la comédie romantique parce que c'est ce qui m'a nourri dans mon enfance avec Cousin à Notting Hill, tout ça. Le cœur de la série, c'est le buddy movie entre la petite et la grande. Moi, mon film culte, c'est Dumb and Dumber. Enfin, je sais pas, c'est un genre de Laurel et Hardy entre la petite et la grande. Mais la question, la thématique que je tisse dans tout ce truc, parce que c'est ce qui m'anime dans la vie, donc c'est ça que j'avais envie de traiter. C'est quoi la limite? Le rire, c'est quoi? En fait, j'ai l'impression qu'on monte sur scène pour faire rire alors qu'on a envie de pleurer. En tout cas, moi, ça a été mon moteur dans la vie. Mais du coup, ça me touche vachement de montrer des personnages comme ça. Le personnage de Nordine et de Paul aussi, c'est des gens qui viennent, qui s'inventent une identité d'adulte sur scène, qui sont un tout petit peu décalés par rapport à ce qu'ils sont dans la vie. Et je trouve ça hyper touchant. Et donc, à quel moment, est-ce que tu peux écrire sans blesser? Est-ce que tu peux faire rire et faire pleurer avec ce qui fait rire le public mais qui fait pleurer? Enfin, moi, c'est des questions qui... J'ai pas de réponse et du coup, c'est ça que j'avais envie de traiter, quoi.
Et puis, c'est aussi l'histoire d'une femme sur scène. Ouais. D'une femme qui, tu l'as expliqué, cette jungle-là qui est matérialisée par la scène dans cette cave où elle est face à tout ce monde-là,
très
seule.
Très proche, en plus.
Ouais. Très proche, c'est un ring, quoi. Il y a quelque chose...
C'est pas une cage parce qu'il n'y a pas de barreau et qu'on a le sentiment que tout peut interférer dangereusement, même.
Ouais, c'est une fille qui y va aussi dans la blague, qui n'hésite pas à aller jusqu'à ce qu'on pourrait imaginer être une forme de vulgarité, mais qui n'a pas peur des mots, mots qui pourraient choquer. Et d'ailleurs, elle a une liberté folle, en fait, cette héroïne. Même sexuellement, amoureusement, elle est libre, en fait. C'est aussi un personnage qu'on voit pas souvent.
Ouais, c'était vraiment le but, quoi. Hein. C'était vraiment le but, c'était d'écrire un personnage, déjà, une série drôle et pas que parce qu'il y a un truc de tragicomique qu'on a voulu avec Léa.
C'est extrêmement émouvant.
Mais comme dans la vie,
il y a des déclarations d'amour.
Ouais. Et la rupture, enfin.
Ah oui, oui, non, mais la déclaration d'amour entre Jeanne Pasquet, qui joue formidablement bien, et vous, elle est.
C'est chaud. Je pleurais sur le tournage.
Ouais, il y a de quoi.
Et en fait, ça sert à rien de pleurer sur le tournage, c'est nul. Il faut vraiment retenir, sinon les gens, ils vont pas pleurer quand ils vont regarder. Donc. Mais bref.
C'est une femme, qui est.
On voulait vraiment un personnage point de vue féminin, jeune. De la comédie, mais pas que, et qui soit comme dans les filles qu'on connaît dans la vie. C'est-à-dire, parfois, t'as les cheveux crades, parfois, tu pètes, parfois, tu dis des bêtises, parfois, tu manques de discernement, parfois, t'es au chômage, en retard.
Elle m'a fait la soirée, la scène du P.
Bah ouais. Mais parce que dans la vraie vie,
c'est dans les 10 premières minutes du premier épisode.
Mais je sais pas, des personnages féminins qu'on écrit d'habitude pour les personnages masculins, quoi.
Ouais.
Une meuf, elle peut être un peu débile, elle peut être un peu vulgaire, elle peut ne pas du tout avoir envie de baiser, elle peut avoir très très envie de baiser, et pourquoi on les écrit jamais, enfin. En France, en tout cas. Dans les séries anglaises, c'est là depuis très longtemps, dans les séries américaines aussi, mais. Et du coup, on avait envie de ça, et.
Non, et ça marche bien parce que ça n'enlève en rien sa féminité. On a au contraire l'impression d'être dans une sorte d'intimité. Et puis, il y a la fragilité qui vient immédiatement derrière. C'est-à-dire que c'est pas que quelqu'un de vulgaire.
Mais parce que pour moi, c'est ça, la féminité. Mmh. Enfin, moi, je me reconnais pas du tout dans une féminité sereine. Ouais. Esthétisée et du coup pour moi la féminité c'est ce que j'essaye de montrer à travers tous les personnages féminins de la série, tu vois.
Après le message c'est pas péter et vous serez belle parce qu'il faut pas non plus que
mais ça veut dire vous n'en serez pas moins belle en réalité
c'est juste que tu fais toi que le faire moi peut-être on s'en fout d'être belle quoi
et en plus ce qui marche vachement bien dans la série c'est votre couple le couple marche très très bien, c'est-à-dire que parfois on a des séries où on a des duos, des couples d'amour comme ça qui vivent une passion où ça joue, mais on voit. Mais là, on a l'impression que vous êtes vraiment ensemble tous les deux.
Ça marche super bien. Ouais. C'était hyper important dans l'écriture et dans la direction et dans le casting.
Mais je pense que c'est ce qui plaît aussi et c'est en quoi on peut s'identifier, c'est que les plus belles histoires d'amour, c'est quand effectivement il y a un obstacle, on se dit c'est pas du tout le mec qu'il faut pour cette nana et c'est pas du tout cette nana qu'il faut pour ce mec. Et c'est toujours parce que c'est pas la personne qu'on attendait, ou ce mec pour ce mec, ou cette nana pour cette nana aussi. Mais c'est ça qui est très joli dans une histoire d'amour.
Mais parce qu'en fait il l'a fait rire et il l'a fait jouir, donc ça c'est ça le démarrage entre eux, quoi.
Il se servir de ses doigts.
Ouais.
Voilà. Non mais c'est ça, c'est dit un autre.
On en a beaucoup parlé.
C'est vrai, on en a beaucoup. Et pas que ici. Mais donc si vous devez cocher un critère, c'est celui-ci en premier.
Ah bien sûr, voilà.
Il y a ce monde aussi de l'humour qui est quand même alors très bienveillant dans la bande réunie autour d'Adé, qui est jouée par Marie Papillon, qui joue extrêmement bien son premier rôle dans une série, mais elle est performante et efficace. Mais il y a quand même ce milieu qui, alors vous le connaissez, vous le fréquentez toutes les trois, Jonathan aussi, mais peut-être avec un peu plus de recul et d'expérience. Mais est-ce que c'est vraiment ce genre de situation, c'est-à-dire on attend que un tel passe parce que ça va déclencher quelque chose dans notre carrière, et puis une légère tension qu'il peut y avoir aux concurrences entre.
Moi j'ai essayé d'être hyper honnête et j'ai été gentille. J'ai été très douce par rapport à ce que j'ai vécu dans les comédie clubs, et je pense que ce qu'on connaît toutes, mais le côté on te coupe le micro, le côté t'es chez toi et à 23h t'as ton téléphone, ton alarme qui sonne, faut prendre ton vélo, il faut aller jouer à 23h30, tu bides, on a essayé par exemple d'aller honnêtement, moi j'ai donné à Lison qui joue Alice des sketchs de mon premier spectacle qui sont mauvais et vulgaires, que j'assume entièrement, que j'aime avec amour et humilité, mais on a essayé de montrer aussi des gens qui se plantent, donc par moments c'est pas drôle, par moments t'entends des gens dans le public qui font et des verres qui se posent, parce que l'honnêteté de cette salle de sport là, c'est que tous les soirs tu n'es pas en galvanisation totale.
Et en même temps c'est une formidable école.
C'est toujours.
C'est une école.
Oui, c'est la meilleure école du monde. Ouais. Mais on a été soft.
Ah ouais, le groupe est assez bienveillant entre eux, ils sont copains, c'est vraiment, t'as été vraiment douce avec la réalité. Ça peut être beaucoup plus dur.
Est-ce qu'il y a ce côté, on se croise sur scène, on se croise dans une cave, et dans l'après-midi on prend des verres, et le matin on se voit, et le soir on va bouffer ensemble. C'est-à-dire que on a vraiment l'impression qu'il y a un côté troupe des individus qui se croisent.
Ça c'est ce qu'on a voulu faire dans la série. Moi c'est pas du tout ce que j'ai vécu dans le monde du cinéma. Enfin j'avais un ou deux amis en démarrant, et c'est vrai qu'on faisait tout ensemble, on écrivait ensemble, machin, donc c'était un peu comme ça. Après, je me suis fait des amis plus tard, ben, Marina et tout, des gens que j'ai rencontrés après.
Marina Rollman.
Mais on parle pas de stand-up et on fait Marina pas de stand-up.
Marina Rollman qui est même droppée.
Ouais.
Oui, oui.
Parce que c'est la ref, quoi.
C'est ça. Ah,
c'est,
ça.
Ouais. C'est trop mignon.
Ouais, ouais,
trop
mignon. N'oubliez pas la parole et citer, mais c'est plutôt le daron.
C'est drôle, non, ça, ouais. Ça va.
Je prends très bien.
Et moi, je ne suis pas citée en revanche.
C'est un hommage.
Parce que je pense que tu vas être joué dans la saison 2.
Je suis juste après le P.
Juste après le P.
D'où le nom de ma boîte Air Production. Jeune Gollerie. C'est sur OCS. On peut déjà binger comme nous l'avons tous fait sur OCS Max les 8 épisodes. Vous êtes déjà, j'espère, en train de réfléchir à une saison 2. On en parlera tout à l'heure. Ouais. Mais la musique est présente également avec des choix.
C'est génial.
Petit fantôme, Lio en anglais.
Ouais,
je
ouais.
connaissais pas.
Super, les brunes qui ont pas trop des prunes en anglais.
Brunettes.
On va en parler, ouais, les brunettes, non, Arnaud Puppets. On va en parler dans quelques instants avec la bande originale également de vos vies à l'une et à l'autre, mais d'abord, voici venir Fanny Ruet.
Oh là là. Coucou les zinzous. Alors. Ce week-end, j'ai zinziné.
Oh là.
Oh là là, moi, vous
T'as
le savez. J'ai zinziné.
T'as zinziné.
Ouais, moi, vous le savez, je suis no limit, je suis comme la Starac 4. Et dimanche, je suis allée à un festival électro.
Oh,
ouais, super. Sauf que j'aime plus les festivals et j'ai jamais aimé l'électro. Donc, c'était pas ouf. Mais pourtant, en vrai, c'était super. C'était super parce que ça m'a fait réaliser à quel point je ne profitais pas assez des moments où je n'étais pas à un festival électro. On n'y pense pas assez. Vous entendez là? Ce silence, chérissez-le, ne le prenez jamais pour acquis. Franchement, c'est comme quand t'es malade et que tu te dis « Mais pourquoi j'ai pas plus profité de quand je ne l'étais pas ?» Que tu repenses avec nostalgie à tous les moments passés avec tes deux narines. Mais donc, pourquoi aller à un festival électro si je n'aime pas ça ? Mais pour une fille, évidemment. Ouais, évidemment, pour une fille que j'ai suivie. Elle savait que j'étais là. Hein. J'étais pas,
c'est ça.
J'étais pas dans la foule avec des jumelles.
C'est pas mal ça.
Déjà parce que j'en connais pas. Et j'étais pas en train de la suivre en préparant un mauvais coup.
Non,
j'étais pas en train de la suivre en préparant un mauvais coup, puisque pourquoi préparer un mauvais coup quand tu peux te contenter d'en être un. Mais donc, évidemment, évidemment que c'était pour une fille, parce que je suis faible. Dès qu'une meuf me dit « Hey, est-ce que tu veux ?» Oui. Oui, honnêtement, elle m'aurait proposé un petit city trip en Afghanistan. J'aurais dit, bah, tu sais, j'ai besoin de soleil. Franchement, prends mes miles. Vous vous rappelez quand nos mamans, elles nous disaient, et si ton ami il saute d'un pont, tu le fais aussi?
Oui.
C'est vrai.
Honnêtement, si elle a des seins. Franchement, tant qu'au final il n'y a pas que le pont qui se fait sauter, j'y vais.
Ouais.
Non, vraiment, je fais n'importe quoi avec les meufs. Je fais n'importe quoi pour les meufs. Quand j'avais 15 ans, il y avait une fille que j'aimais bien, elle était bilingue, et donc pour l'impressionner, j'ai appris l'anglais. C'est stylé. Mmh. Mais d'un côté, je me dis, mais heureusement que sa passion, c'était les langues germaniques et pas les drogues dures. Parce que sur le CV, c'est pas pareil. Hein. Vous parlez anglais ? Yeah, crystal meth. Mais d'ailleurs, j'ai pensé à prendre de la drogue à ce festival pour faire passer l'angoisse de la foule et de la musique et tout, sauf qu'en fait, bah déjà, j'ai peur de la drogue, et puis ça coûte trop cher. Genre, je peux pas me le permettre. Enfin si, j'ai les moyens de me droguer, mais vraiment pas longtemps. Vraiment, j'aurais même pas le temps de comprendre comment on fait pour prendre de l'héroïne. Genre, il paraît que ça se mange chaud et tout. Genre, faut brûler la cuillère. Et je vois pas l'intérêt, parce que si tu veux une cuillère vraiment chaude, bah, suffit de dormir avec Morgane Cadignan.
Oh,
c'est quoi
roue libre.
Donc, tant pis pour la drogue. Donc, je suis à ce festival et je me rabats sur la bière et tout. D'ailleurs, un des avantages de cette fille que j'aime beaucoup et que j'ai suivie, c'est qu'on partage toutes les deux une certaine passion pour l'ivresse. Mais pas pour l'alcool, juste vraiment pour l'ivresse. Honnêtement, si tu nous dis à partir de demain, il y a de l'alcool dans de l'eau de pluie, je quitte l'humour, je deviens une gouttière. Mais on n'y connaît que dalle en alcool et tout. On prend du vin, tout ce qu'on sait, c'est qu'il est blanc. Tu vois, on est là, oh, il est blanc, il est vraiment très très blanc, tellement blanc, il pourrait faire des chroniques sur France Inter. Hein. Et donc là, au festival, on descend des bières et tout. Après 4 bières, ma mère m'appelle. Vu que j'ai bu 4 bières, je décroche. Elle entend que je suis à une fête et elle me dit ce truc trop mignon. On est 10 000. Elle me dit « Oh, qu'est-ce que vous fêtez ?» Et moi, je suis là « Mais les gars, c'est l'anniversaire à qui ?» Je ne sais pas. Eh bien, je n'en sais rien. Maman, je n'en sais rien. On fêtait la vie, on fêtait l'amour, on fêtait le fait qu'on puisse refêter des trucs. Et puis, on fêtait aussi quand même le fait que cette fille, elle m'ait proposé d'aller à un festival plutôt que de sauter d'un pont. Et ça, franchement, il n'y a pas de petite victoire.
Merci. Fanny Ruet.
en spectacle.
Tous les mardis et mercredis à Paris, la Scala en tournée partout en France et j'ai oublié de donner les dates de la cuillère chaude. Morgane Cadignan. Morgane, t'es au Métropole du jeudi au samedi. Donc si vous organisez bien, siestes, ouais. Vous allez voir Fanny, vous allez voir Morgane, vous regardez la série d'Agnès.
La cuillère chaude. Mais qu'est-ce qu'on dirait un pseudo sur un site.
Ouais, qui est du dark web.
C'est ça.
La cuillère chaude du 6-2.
Agnès sur Stel, Jonathan Lambert, parlons de Léa Domenac parce que oui. Vous avez travaillé ensemble, oui. Que vous a-t-elle
on a
apporté
créé la série ensemble. Qu'est-ce qu'elle m'a apporté? Elle a structuré tout ça, elle m'a écouté, lui raconté l'ADN que j'avais dans la tête et elle m'a dit j'achète pas, c'est nul, recommence ça, oui, ça, non, ça, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment je peux avoir de l'empathie pour elle? Comment on y va? Bah, c'était une grosse exigence d'écriture pendant.
Parce qu'il fallait de la rigueur.
Parce que, parce que moi j'avais jamais écrit de série de ma vie. Parce que.
Choronneuse.
Oui, mais enfin, franchement, je sais pas, parce qu'il y a des producteurs un peu fous qui m'ont offert cette place-là, Lorraine Efflard et Mickaël Gentil et Mathieu Siboni qui m'ont donné cette place-là, parce que, enfin, ouais. Je veux dire, je suis jeune et tout, enfin, c'est un peu bizarre, tu vois. Et du coup, c'était des gens très exigeants, avec des gens en développement qui font des notes de lecture hyper scolaire et précise, et tu dois tous les matins recommencer à zéro jusqu'à ce que les gens valident, quoi. Les producteurs, puis la chaîne. Puis...
Certains personnages gardent leur prénom, d'autres non. Il faut comprendre quelque chose.
Les deux seuls qui gardent leur prénom, c'est Paul Mirabel et Nordine, parce que c'est des vraies scènes de peur. Ils nous ont offert leur vrai sketch, leur vrai spectacle, c'est leur vraie identité, à part que Paul, on lui rajoute une intrigue de fiction qui est mon amant
une et bisexuelle.
Vandalisme, on lui rajoute une bisexuelle qui est donc une de fiction. Mais je voulais vraiment qu'on puisse s'identifier.
Dit dans sa chronique.
C'est même science-fiction.
J'invente rien.
Il est génial d'ailleurs.
Oui, super.
Mais il a peut-être déjà fait des quiches à des meufs à poil. Attends, je sais pas.
C'est pas du docu, ça.
Cette partie-là n'est pas du docu.
Hier, il a annoncé chercher une fille.
Toujours, donc, mais chaque semaine.
La femme
chaque
de sa
semaine,
vie.
C'est ouais, un peu un running gag.
Il est en stand-by. se retrouver dans le rôle du vieux has-been. Jonathan. Ouais, non, c'est. Évidemment, c'est drôle, c'est fait avec humour. Mais refaire une comédie romantique. D'abord, c'est pas des rôles qui se présentent tous les jours dans le cinéma français. Ces comédies romantiques sont plutôt rares.
Oui, et d'autant plus pour moi. C'est-à-dire que moi, on me proposait toujours. Moi, j'adore la comédie. Enfin, c'est le seul truc qui m'excite. Donc, j'étais heureux effectivement qu'on me propose un personnage qui sorte un peu des caractères un peu outranciers, un peu voilà. Il y avait quelque chose de très sincère.
Et... C'est même l'inverse. C'est-à-dire que
ouais, c'est ça,
vous
c'est
êtes plutôt rigoureux dans votre mode d'éducation. Plutôt...
Oui. Et puis le personnage est drôle malgré lui. Il cherche c'est pas. Ça. Bon, je cherchais pas à être drôle sur le plateau ou quoi. Il fallait jouer toutes ces situations qui étaient écrites parce qu'il fallait faire exister cette histoire d'amour. Je trouve que c'est ce qui cohabite très bien et ouais. C'est la réussite de cette série, c'est que effectivement on est en empathie avec cette histoire, avec ces deux personnages, leur histoire d'amour, enfin tous les personnages, et en même temps il y a des moments où on se marre franchement, et ça c'est très difficile de faire cohabiter deux trucs.
Et de faire cohabiter une jeune bordélique avec un gars psychorigine.
Ouais, mais c'est comme le nom des gens, enfin bah, y a Casmi qui joue ma mère dans la série, dont je suis fan depuis très 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 longtemps. C'était vraiment ça, c'est Gamblin et Sarah Forestier, et c'est pas tellement une différence d'âge qui ça c'est visuellement ça te prend au visage quand tu démarres le film, mais c'est pas ça, c'est que Gamblin comme Francis, c'est notre référence, franchement je le dis, c'est il est en costard gris, il est expert comptable, il est daf, il est rigide, et elle, Sarah Forestier, elle est à poil dans le métro, si je caricature les deux scènes, et ben c'était un peu ça, c'est que comment des gens qui sont en échec et en chantier vont, parce qu'ils vont se rencontrer, se réparer. Et ça, je trouve ça trop beau dans la vie.
Alors, être à poil, ça fait également partie de c'était contractuel dans la série. C'était...
Franchement, j'avais pas réalisé en écrivant à quel point j'ai écrit des scènes de roulage de pelle et de gens à poil. Et quand j'ai vu le nombre de tests PCR que j'ai infligé, que j'ai infligé à tout le monde tous les matins, et comment j'ai mal vécu ces scènes d'intimité à poil en string chair devant une équipe réduite, c'est-à-dire quand même 24 mecs barbus de 30 ans, car sur les tournages il n'y a que ça. Franchement, la saison 2, elle est au couvent, prune. Ça m'a pas du tout.
Une culotte.
Mais non, mais c'est pas gratuit en plus. C'est
non,
ça.
C'est jamais gratuit. Mais c'est comme dans la vraie vie en fait. Dans la vraie vie, quand tu te lèves et tu vas
travailler la nuit.
Ça dépend.
Là, vois, sur, non,
c'est pas esthétique.
Sur les seins. C'est
la
et puis ça aide à l'intrigue. La première fois où on voit vos seins, c'est un déclic de scène d'humour et d'intrigue.
Oui,
en fait.
Oui. Et je pense qu'il y a plein de gens qui ont déjà vécu ça. Enfin, voilà, j'ai déjà vécu ça, donc voilà.
Mais c'est jamais ridicule. C'est pour ça que l'histoire d'amour, elle est hyper crédible, parce que même le personnage de Francis, il fait ses blagues, mais il est jamais ridicule.
Et quand il est à poil, c'est trop bien. Enfin, je sais pas. Genre... Non, mais c'est comme dans la vie. C'est genre. quand tu te lèves, t'es à poil.
Bah ouais, bah voilà, c'est réel.
Parce que dans les films où tu viens de faire l'amour et tout d'un coup,
tu te fais une robe avec un drap.
Tu te relèves avec le drap, on va dire, mais en fait, personne ne fait vraiment ça.
Puis on a tous des couettes, quoi.
Et moi, j'ai découvert deux trucs dans la série, c'est drôle, c'est quand j'ai regardé la série. Mais il y a deux trucs qui m'ont. J'ai dit, c'est super, j'étais évidemment très heureux parce que c'était très fidèle à ce que j'avais lu, mais me concernant, parce qu'évidemment, parfois, on a ce défaut de se regarder soi, en tous les cas, en première lecture, en se disant, est-ce que ça va, est-ce que je suis bon, est-ce que je passe pas à côté de ça. Et il y a deux trucs qui m'ont marqué, j'avais dit à Agnès, c'est que je cours comme un débile, alors que je pensais bien courir, parce que par ailleurs, j'ai fait des marathons, des machins. Alors je me suis dit, bon, là-dessus, pas de problème.
C'est le seul truc.
Je dis, mais je cours comme un débilos. Et l'autre truc, c'est effectivement, je ne savais pas que j'avais les fesses aussi blanches. Ça m'a.
On les a pas maquillés. C'était un budget OCS.
Voilà. Pourtant, c'est pas la première fois que vous en jouez de votre jolie dernière.
Du coup, c'est fini. Je
prends les gens derrière sur les réseaux à la retraite. Nous parlent beaucoup de tes abdos.
Ouais. Ah bon.
Ouais. Ah bah, rigolez.
Ouais. Moi, je venais d'accoucher et tout. Franchement, non, c'était pas facile. Mais tout pour la comédie.
Ça va.
Ça va, t'inquiète pas. On s'en parle.
On va parler avec Béatrice Copper-Royer, psychologue clinicienne et auteure de La famille recomposée. Pas facile, mais possible, justement, dans cette idée de devenir belle-mère ou beau-père. D'ailleurs, on évoquera les deux angles. Mais d'abord, la musique dans vos vies. Agnès Hurstel, vous écoutiez début des années 90.
Comment tu t'appelles?
À 440.
Est-ce que tu me trouves belle?
Ah, vraiment charmante.
Et où c'est chez toi?
Sur la planète Pa.
C'est très loin d'ici.
Émilie Jolie.
C'était pas cette version-là, mais oui, c'était ça. Bah oui.
Vous avez grandi avec Émilie Jolie.
Bah ouais.
On est en 90, je suis en train de faire la bande originale de la vie d'Agnès Hurstel. Si on m'avait dit
et on est
ça
bourré
un soir tard, absolument. Généralement, c'est pas dans cette ambiance. Alors, cette vie, Agnès Hurstel, de quoi on parle? Peut-être de la famille, parce qu'elle est présente dans la série. À la fin de la série, parce que je suis une monomaniaque, je lis même les génériques, il y a quand même une sorte de big up à la saucisse de Toulouse et à la famille.
Ouais.
Est-ce qu'ils sont proches,
ouais,
les parents que vous avez dans la vraie vie,
oui,
et les parents de Prune?
Oui, oui, oui.
Hyper.
Non, pas forcément le même milieu et tout, mais oui, mon père, il chante l'opéra à poil et mes parents, ils se roulent des pelles et ils parlent beaucoup de leur amour légendaire depuis plus de 30 ans, de leur sexualité. Il n'y a pas de tabou.
Et ça peut être gênant, ça, quand on grandit?
Bah, c'est vraiment ce que Prune dit à son petit frère, qui ressemble beaucoup à mon petit frère.
Qui est génial, ce petit frère, ouais, qui est fou.
Enfin, on a caricaturé, mais je veux dire, mais ça va, ils ont adoré la série, mais mes parents, ils sont tellement désinhibés. Qu'il y a un moment où, quand moi j'étais ado, je me disais, mais il n'y a même aucun.
Je pourrais jamais arriver.
Il n'y a aucun espace illicite, dangereux. C'est-à-dire que la sexualité n'est pas un truc à découvrir à l'adolescence, vu qu'ils prennent toute la place. Ils ont un amour extraordinaire, donc j'y arriverai jamais. Enfin, on était là, mon petit frère c'était un peu fort, mais on se disait,
qu'est-ce qu'on va faire?
Mais c'est vraiment les beaux-parents qu'on rêve de rencontrer.
Ouais,
quoi.
Ouais, ouais,
Jérôme Lenôtre aussi, il est canon. Quoi. Et cette scène à jouer, c'était très marrant parce que. Il se dégageait Enfin, moi, j'étais vraiment dans cette espèce de situation que vous vous dites, putain, mais c'est génial de rencontrer des.
Le dimanche, je deviens sympa chez les beaux-parents.
C'est
ça, exactement.
Forcément, c'est des gens très drôles.
Ouais, on n'a pas toujours envie de voir son beau-père à poil en train de faire des merguez. Hein.
Bah, elles étaient bonnes, en tous les cas.
Et pour continuer à évoquer un peu votre enfance, adolescence, Agnès, je vais te tutoyer. T'as eu un épisode médical hyper dur.
Ouais.
T'es 12 à tes 19 ans, en fait. T'avais une scoliose aggravée.
Ouais. J'ai porté un corset jour et nuit pendant 10 ans. J'arrive pas à en parler. Franchement, j'ai fait du stand-up il y a 5 ans exprès pour en parler sur scène. J'ai réussi. J'ai essayé de faire cette série pour en parler. J'y arrive pas. Finalement, par pudeur, je fais des blagues, mais mon rêve, c'est d'en parler. J'y arrive pas.
Ouais, ouais. Et en tout cas, si on n'en parle pas dans le détail, qu'est-ce que ça a changé en toi? Qu'est-ce que ça a fait de toi forcément une femme différente?
Bah, déjà, ça m'a obligée à être la première de la classe et la plus rigolote parce que j'avais pas du tout les autres attributs adolescents. Et ça m'a rendue adulte à 11 ans. Parce que j'ai dû prendre conscience de la douleur physique, qui est un truc qui est pas normal, permanente. Et
c'est une grosse douleur.
Énorme, mais tu peux pas prendre des médocs. Donc, mais c'est pas grave, ça m'a permis d'autres trucs plus tard, bien.
Non,
mais
et puis de comprendre qu'il y a des règles, des obligations, même des règles qui font mal, celles de mettre un corset, mais que c'est obligatoire, sinon ça c'est plus grave.
Mais donc... ça, tu te poses même pas la question parce qu'on te laisse pas le choix, on te dit pas soit tu te fais opérer, soit tu mets un corset. Et puis c'est juste ma routine quotidienne n'était pas du tout normale, c'est-à-dire qu'au lieu de faire du théâtre ou du chant, j'allais à l'hôpital de Garches. et à la piscine et chez l'océan. Mais trop bizarre. Mais au fond, je dis ça, ça fait un peu.
Non, mais c'est voir ce que ça a changé.
Finalement, heureusement, le corps n'a pas la mémoire.
Ça concerne beaucoup de personnes qui écoutent aussi.
Sans doute. Et ce qui est génial, c'est de se dire que mon corps, qui était mon plus gros handicap jusqu'à mes 22 ans, est devenu mon meilleur atout après.
Ton outil de travail.
Ouais, mon outil de travail. Et genre, c'est ça qui m'a permis de séduire, d'avoir du plaisir, de. Enfin, franchement.
Ouais, là, t'en fais trop, là.
Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai tout un truc. Le corps est la base de tout, quoi.
Ah ouais. C'est une réappropriation de soi et on le voit dans la série aussi.
C'est pour ça que pour moi, c'est pas difficile d'être à poil dans la série. C'est beaucoup plus difficile de dire je t'aime à quelqu'un ou de pleurer devant quelqu'un dans une scène. C'est montrer mes seins.
Jonathan Lambert, vous écoutez Nirvana, vous, dans les années 90. Vous avez découvert la musique avec Nirvana parce que. On va le dire, on se connaît aussi dans la vie privée. Vous êtes un dingue de musique, un connaisseur de musique, et vous allez chercher même. Quand je dis connaisseur de musique, c'est pas en savoir beaucoup sur les gens connus, c'est d'aller chercher des inconnus qui vous procurent du plaisir musical.
Ah ouais, mais ça a été vraiment. J'ai eu beaucoup de chance, c'est que mon père était pété de musique aussi, et avait toute une collection de vinyles à la maison. Donc j'ai grandi avec Neil Young, les Stones, Otis Redding.
Et vous avez gardé les vinyles de Rodolphe ?
En partie, parce qu'il y en avait vraiment un paquet. Mais Nirvana. Donc je baignais dans toute cette culture-là, et tout d'un coup, je crois que on est en 90, ouais. C'est quoi, ouais. Je sais plus, un truc comme ça. Et la première fois que j'ai entendu Smells Like Teen Spirit à la radio, je me souviens à l'époque c'était Wii FM, j'étais séché, c'était un nouveau son, c'était Seattle, c'était le grunge, c'était tout ce qui allait préfigurer après ce qui suivait, enfin c'était les héritiers de Neil Young déjà, mais il y avait un truc qui était, j'étais dingue de cet album. Et d'ailleurs j'ai lu un truc assez fou. C'est que vous savez le bébé qui est sur la couverture
de la bande,
il porte plainte
pour pédocriminalité.
Vous n'écoutez pas la bande originale tous les jours, alors, Jonathan.
Ah, vous en avez parlé.
Merci.
Alors moi je vous donne un scoop, je vais faire un procès pour gérontocriminalité dans la série d'Alès.
Ce qui est fou, c'est qu'il en a profité de cette notoriété en faisant plein de trucs, plein de happenings, et en se faisant payer pour ça. Et que quelqu'un a dû lui dire, tu peux gagner
plus.
C'est
l'Amérique, quoi.
Ouais, c'est ça. Tu peux gagner tant de millions si tu attaques maintenant. C'est fou.
Jonathan.
Oui.
Si on parlait du lycée.
Ouais.
Le lycée, ça n'a pas été complètement la fête absolue. Vous dites que vous avez fait en sorte de bosser pour en finir le plus tôt possible. Ouais. Et après, vous avez enchaîné pas mal de débuts d'études.
Ouais, j'osais pas trop m'avouer que je voulais faire ce métier-là parce que j'avais trop peur de l'échec. Donc même pour rassurer mes parents, je leur disais que si je voulais travailler dans le spectacle, le cinéma, ce serait plus dans la prod, tout. Il y avait un côté, voilà, donc je vais faire des études de gestion. Voilà, j'arrivais pas
pour
à
rassurer,
voilà.
Ouais.
Et je sais qu'un jour il y a un truc qui m'a beaucoup décoincé, je sais pas, mais mon père m'a apporté un jour un livre de François Perrier, qui était, je crois, Lettre à un jeune comédien, un petit livre qu'il avait écrit. Et le fait que mon père m'apporte ça, c'était parce qu'on se parlait pas, il y avait beaucoup de pudeur chez mon père, et tout d'un coup je me suis dit, tiens, est-ce que c'est pas vas-y, si tu veux, au moins tant que
laisser passer.
Ça fait partie des petits trucs comme ça, des petits déclics.
Casabian, c'est ce que vous écoutiez, Agnès, en 2007. Ils ont fait Taratata, ils sont tellement cool, les Casabian.
Ah ouais ?
Tellement. Et cette musique évoque quoi pour toi ?
Fin du lycée en Angleterre, de danser pour, je sais pas, un truc hyper joyeux.
Exutoire.
Vous avez fait votre lycée à Londres.
Ouais.
Vous êtes resté 3 années.
Ouais.
Et c'est aussi là-bas qu'on découvre l'humour anglais, j'imagine.
Ouais. Ouais, j'allais pas encore dans les comedy clubs parce qu'à Londres, tu peux pas vraiment sortir. Enfin, on avait des fausses cartes d'étudiantes, fausses cartes d'identité d'étudiantes, mais on n'allait pas encore au stand-up, mais on regardait des séries, quoi.
Ouais.
Mais c'était trop bien.
Et qui a ouvert la voie, justement, à cet humour-là si différent ?
Ricky Gervais.
Ouais.
Déjà ?
Plus tard, Sharon Horgan.
Ok. Et la littérature, parce qu'on n'a pas parlé de Hippocane-Cane quand même, c'est normal.
Oui, après je suis rentrée de Londres et j'ai fait des études de lettres parce qu'il fallait rassurer mes parents et que j'ai pas osé me dire tout de suite que je voulais.
Donc, est-ce que c'est par la bande dessinée, par des romans
Les romans.
L'humour est passé par où ?
Mais moi j'étais pas du tout censée faire du théâtre, je voulais pas du tout parler sur scène, je voulais écrire des romans, je lisais des romans, je voulais faire du cirque et de la danse. Et après, par défaut, vu qu'à chaque fois je devais arrêter les trucs à cause de mon dos, bah, je me suis mise à jouer et à parler. Et donc, oui, les romans à fond. À fond. Mais j'étais très, très académique, très, très scolaire. J'étais hyper chiante, j'étais hyper angoissée, j'étais hyper sérieuse. Et à 22 ans, après la prépa, après le corset, il y a un truc qui s'est. J'ai découvert l'humour après.
D'accord, mais quel auteur alors, avant de découvrir l'humour ?
Attends, un auteur qui m'aurait donné envie de faire des blagues ?
Non, ou simplement d'aimer les mots, déjà.
Ben... non, mais il y en a tellement. Il y a, quand je suis petite, il y a Roald Dahl tous les soirs, ouais. Susie Morgenstern, Marie-Aude Muraille, Judy Blume, justement, tiens-toi à droite sur le corset. Et après, plus tard, en prépa, il y a eu Aragon, il y a eu les auteurs américains, il y a eu. Mais c'était pas lié à l'humour. Hein.
Oui, ça, je.
Ouais. Non, mais j'aurais bien aimé, j'aurais adoré te dire.
Non, mais peut-être qu'après les bandes dessinées.
Ouais, les
bandes
dessinées, après, quand j'ai fait du stand-up. C'était un exercice de. Le stand-up, c'est une gymnastique où tu dois être imparable, ça doit être limpide en une punchline, et donc c'est exactement comme une bulle.
Comme une bulle, ouais.
C'est mon producteur qui me disait ça, vraiment, il faut que t'éditorialises ta pensée et que tu l'illustres, il faut que ce soit aussi limpide qu'une planche de BD.
Et là, quel auteur ?
Ah là là. Attends, j'entends Cassabian. 1000. Évidemment, rien ne me vient. Gus. Tous ouais. Les Gus. Tous les Francis et papa, Francis tombe amoureux, tout ça.
Les rubriques à braque, non ?
Non, c'est quoi ?
Ça, c'est plus c'est ancien, ouais.
Ouais, pardon.
C'est Gottlieb.
Tous les BD, ouais, génial, les requins marteaux, les BDQ, c'est ma passion, ça. Il y en a plein de Anouk Ricard, plein de trucs.
Très bien. Super cool. Jonathan Lambert, dans cette période 2007-2008, vous écoutiez. Est-ce que vous aimez toutes les musiques ?
Ah oui, le passage de Nirvana à Schubert, ouais. Mais non, c'est en fait je l'avais choisi parce que par rapport à l'époque, c'était mon premier spectacle et il y avait ouais. Voilà, il y avait la symphonie inachevée de Schubert et c'est, voilà, ça fait partie
l'homme qui ne dort jamais.
Et ça fait partie des musiques quand je l'écoute, ça fait toujours le même effet que la première fois qu'on l'entend.
Ah bah ouais, tu peux pas dormir.
C'est, voilà, c'est non, mais c'est je trouve ça il y a tout quoi.
C'est
là-dedans.
Puissant. Ouais.
Et en 2008, Jonathan, on vous retrouve sur scène pour L'homme qui ne dort jamais. Qui est en train, qui est pas vraiment du stand-up et qui est pas vraiment non plus non. Une succession.
J'ai jamais
de
su
sketch.
Écrire de stand, enfin d'être ouais. Dans cette écriture-là. Ouais. C'était plus une sorte de récit de voyage.
Ouais, ou une pièce fabulée, seule.
Fabule. Ouais,
c'est
voilà.
Ça,
voilà.
Monologue.
Ouais. Ouais, c'était la première fois que j'essayais d'écrire, de monter sur scène. Donc j'essayais de trouver un petit peu ma voix et ma façon d'écrire. Voilà.
Et vous étiez à la télé aussi, chez Laurent
ouais,
Ruquier.
Absolument, ouais. D'ailleurs, c'était compliqué parce que voilà, ouais. Du coup, les gens parfois venaient voir des personnages.
Baiser, par exemple. Voilà,
et du coup, le deuxième spectacle, Perruque, a été un peu une réponse ouais. Commerciale, hein, mais enfin, que je ne renie pas du tout, mais ouais. En tous les cas,
oh, c'était tellement
plus,
bien.
Ouais. C'était plus. Plus cohérent avec ce que les gens ouais. Pouvaient
mais
attendre.
Mais ils sont tous, et on parlera de l'actuel spectacle, mais ils sont tous forts, les spectacles de Jonathan Lambert, parce que c'est écrit, il y a une vraie narration, il y a un travail
c'est
de
documenté
dingue.
À fond.
Et c'est produit, quoi. Ouais. C'est-à-dire, c'est pas juste, j'ai un micro, je suis debout, il y a des gens qui font ça très bien, mais c'est un spectacle.
Bah, c'est-à-dire que j'ai peut-être pas suffisamment confiance en ce que j'écris, donc j'essaie de me raccrocher à des cas, des trucs.
Tant mieux pour nous, parce que ça donne un spectacle aussi, et le fond et la forme sont extrêmement bien complémentaires. On va continuer de parler, revenir à Jeunes et Gaulerie, justement cette série sur OCS, dont la toile de fond est, oui, l'humour, le monde du spectacle, mais aussi la famille recomposée, le fait de devenir belle-mère ou de devenir adulte. On vous a demandé, bonjour Béatrice, de
bonjour.
Venir à ce micro. Béatrice Copeur Royer, vous êtes psychologue clinicienne et auteur de « Et la famille recomposée, pas facile mais possible ». Il y en a énormément, de plus en plus, des familles
énormément.
Recomposées.
Énormément, ça, énormément.
C'est comptabilisé quelque part ou...
Non, je sais pas. Moi, je déteste les chiffres, donc okay. Je sais pas.
Oublions.
Mais je sais qu'en tous les cas, il y en a beaucoup et que en consultation, j'ai affaire très souvent à des adolescents, puisque je m'occupe beaucoup d'adolescents qui me parlent de leurs beaux-parents, notamment les filles de leur belle-mère. Les relations se construisent, peuvent tout à fait devenir harmonieuses, mais ça va pas de soi.
Et donc, parfois, c'est conflictuel.
Voilà, et cette fameuse phrase évoquée tout à l'heure que je pense beaucoup d'enfants ont pu dire, ou beaucoup de beaux-parents ont pu entendre, t'es pas mon père, t'es pas ma mère, c'est évidemment le premier réflexe. Ouais. Et c'est vrai que la meilleure réponse a été dite tout à l'heure, bah oui, évidemment, je suis pas ton père, évidemment, je suis pas ta mère.
Dieu, mon bien trésor. Sûr.
Voilà. mais c'est pas ça. Mais ça change rien. Et est-ce que le problème, puisque c'est ce que pose aussi la série, le problème, et on évoque toujours le problème de la place de l'enfant, comment peut-il se positionner par rapport à ce nouveau couple qui va l'éduquer, mais c'est vrai qu'on ne pose pas la question de savoir comment la belle-mère, elle ou le beau-père peut se placer.
Alors la belle-mère, ça dépend beaucoup de la place que lui donne le père, parce que en réalité, il me semble que ce qui va être très très important pour la belle-mère, qui donc n'a pas une tâche très facile de toutes les façons, c'est d'être soutenue par son conjoint, par son compagnon et
dans son rôle.
Dans son rôle, et que donc l'enfant comprenne clairement qu'effectivement la belle-mère c'est pas la mère, mais que c'est pas parce que c'est pas la mère qu'elle n'a aucune place.
Et quand mais on cette vit... place, pardon, comment la situer ? Est-ce qu'elle doit ? Parce que certaines vont tout faire pour entre guillemets acheter. L'expression n'est pas belle, mais j'ai pas d'autre mot qui me vient à l'esprit. Mais être sympa, être cool, et pour, magos, justement, pour que l'amour soit au rendez-vous. D'autres vont être tyranniques parce que il y a elle veut faire sa place et marquer son autorité, donc c'est assez.
Mais justement, moi je crois qu'il faut sortir de l'obligation d'amour. Il n'y a aucune obligation d'amour, en revanche il y a une obligation de respect. Donc on part déjà de ça, c'est-à-dire on se dit bonjour, au revoir, merci, on ne se claque pas la porte au nez, et quand on vous pose une question, on répond. Et puis ensuite, l'amour peut-être qui va venir, mais ça va être la cerise sur le gâteau et ça va se construire certainement pas du jour au lendemain. Parce que l'enfant, il peut être aussi la fille notamment, elle peut être quand même dans un conflit de loyauté par rapport à sa propre mère. Et puis à l'adolescence, c'est très agréable aussi d'avoir une cible sur qui tirer.
Si on y rajoute en plus Oedipe dans l'histoire et la compétition de l'amour du père, ça simplifie pas
la chose. C'est quand même une rivale. Et puis en plus, ça lui rappelle que son père a une sexualité et les adolescents détestent avoir une référence à la sexualité de leurs parents. Donc tout ça est quand même un peu compliqué. Et on peut pas imaginer en tant qu'adulte que ça va être si simple. Et parfois, je trouve que les adultes oublient un peu que, bien sûr que le lien peut se construire, mais qu'il va pas de soi et qu'il faut du temps. Il faut beaucoup en parler, il faut beaucoup en parler d'ailleurs en amont, et puis ensuite se donner du temps pour que chacun arrive tranquillement à se supporter, à se respecter et parfois à s'aimer.
C'est sous-tend que toutes les parties soient bienveillantes, c'est-à-dire que la mère de l'enfant, qui est incarnée par Ophélia Kalb, qui est super,
bienveillante. C'est
parce que pareil, c'est on voulait pas le cliché. Elle n'est pas jalouse de son ex, elle veut juste que son enfant cohabite correctement avec une belle-mère.
Ça déjà, c'est bien parti.
C'est une fiction. On écrit les fictions qu'on aimerait voir dans la vie.
C'est rare.
Non, c'est pas
la connivence entre une divorcée et une belle-mère.
Ça arrive, mais disons que quand la fille est coincée entre une mère qui lui dit que sa belle-mère est juste une horreur et son père pour qui c'est un amour formidable, évidemment que c'est un peu compliqué et qu'elle sait plus très bien comment.
Si je peux me permettre, les mots déjà posent une sorte de rapport qui est très très problématique parce que le belle-mère, on disait marâtre, et la marâtre, tous les mots avec un suffixe en âtre, c'est verdâtre.
C'est
péjoratif. Donc déjà, il y avait je sais pas si ça glisse par âtre.
Ça a été changé depuis longtemps, au Moyen-Âge.
Ça voulait dire beaucoup de choses quand même, la marâtre.
Mais de toutes les façons, la belle-mère et donc la marâtre, elle a très mauvaise presse dans la légende populaire.
C'est pour ça qu'on a mis Jeanne Gosselin pour changer ça.
Donc pour résumer, il faut préparer un peu le terrain, y aller progressivement, avoir le soutien de l'autre, entre guillemets.
Faut pas être trop dans la séduction, parce que les adolescentes, elles s'y trompent pas du tout.
Et créer une complicité aussi, des vrais liens, c'est-à-dire une activité qui soit le terrain de prédilection de ce rapport-là, justement.
Oui, ça certainement. Et par exemple, les vacances, souvent, sont l'occasion de se retrouver d'avoir une activité commune amusante. Et voilà. Donc, c'est pas à pas, petit à petit, et certainement pas d'un coup.
Votre livre s'appelle « Et la famille recomposée, pas facile, mais possible », c'est chez Solar. Merci exactement. Béatrice Copper-Royer d'être venue à ce micro. Monsieur Tanguy Basturo de retour, tu parles de quoi aujourd'hui ?
Je veux parler des gens de télé qui parlent de tout en boucle, les spécialistes de tout, des betteraves, de la prime de rentrée scolaire, de Laetitia Hallyday, ça me gonfle, j'aspire au silence, je regarde plus que Zen TV.
Fanny Ruet, Tanguy Basturo, Agnès sur stage, Jonathan.
Agnès,
non mais ça s'appelle Jeanne et Galerie et cette série fraîche.
Un bonbon.
Ouais, un bonbon et en même temps on rit, on pleure. Et ce qui est bien, parce que en jouant avec l'humour actuel et l'humour blague carambar, j'ai envie de dire, l'humour de Yeuve, et ben c'est que d'abord ça peut plaire à tout le monde et qu'on se rend compte en plus, qu'il y a des vannes qui peuvent paraître totalement datées, qui peuvent faire à nouveau rire. Ça dépend comment c'est fait et je trouve que la notion de nos limites. Et tu sais quoi, t'as pas ri à cette première vanne-là, je vais t'en faire une deuxième, puis une troisième, une quatrième. et avec c'est pour ça que je parlais de la rubrique à braque, parce qu'il y a comme la petite coccinelle, si vous découvrez Agnès Hurstel, la rubrique à braque, il y a une petite coccinelle qui est dans la bulle et qui observe la vanne qui est dans la bulle et qui en fait un commentaire.
Okay.
Et ben vous avez exactement ce rôle-là quand votre père dans la série et votre amant dans la série se font des vannes à deux balles autour de tes œufs. Ouais, c'est la petite coccinelle.
On va toutes les faire. Donc.
C'est la petite coccinelle qui fait bon, ça va.
Ou au musée, quand le personnage de Prune parle avec Napoléon.
Ouais.
Et ça m'a fait hurler de rire. Quoi. Ouais. C'était hyper bien vu. Et on n'a pas assez parlé du frère aussi.
Ouais, Thomas Gioria qui était dans Jusqu'à la garde,
qui
rêve d'être gendarme.
Non, de passer le concours.
Et qui
fait tout pour être préparé
et qui se camoufle
dans le jardin.
Et qui ne veut pas s'éparpiller, qui donc n'a pas de petite amie.
Voilà, ne veut pas de sexualité.
Et quel est le message végétarien que vous faites passer dans la salade de museau proposée par vos
Mais
parents.
Ça, c'est une histoire vraie dans ma famille à Toulouse. Un jour, les 35 ans de ma sœur, sur le buffet, je lui demande est-ce qu'il y a de la salade. Elle me dit oui, de la salade de museau. Quoi. C'est vraiment une famille...
Viandard,
c'est drôle.
Ah, oui, le fait de noter des choses, d'avoir une espèce de carnet, est-ce que c'est un réflexe ? D'ailleurs, la question est pour tous les quatre, Fanny, Morgane, vous et Tanguy, est-ce que vous notez ce que vous vivez, ce que vous entendez en disant « ça peut faire une vanne ». C'est pas sûr que ça en fasse une, mais ça peut.
Tout, je note aussi bien les bouts de phrases de mon fils, que les dessins, que les rêves, que des trucs que j'entends ou... Ouais, c'est autant des dessins. Enfin, oui, je sais pas, j'ai un carnet tout le temps.
Morgane ?
À fond, ouais.
Fanny aussi ?
Absolument tout ce qui peut être utilisé dans la fiction, que ce soit drôle, pas drôle, même si c'est juste un truc qui me touche d'une manière ou d'une autre, je note tout.
Tanguy aussi ?
Ben non, jamais, non. Ben non, c'est vrai, je me mets devant la feuille et c'est à ce moment-là que je réfléchis, mais
Tanguy,
jamais.
Tanguy, les permnésies qui se souviennent toutes.
Ouais. Non, je sais pas.
Oui, tu dois le noter quelque part dans ta tête sans t'en rendre compte.
Après, l'avantage des chroniques quotidiennes, c'est que tu le notes et tu le redis tout de suite.
Oui, directement.
Même si c'est pas drôle.
Et qu'il faut vite.
Tu testes en live tous les jours.
C'est vrai que l'un des problèmes, c'est de l'alimentation, entre guillemets, de la vanne. Et puis alors l'autre problème qui est évoqué aussi dans la série, mais on va pas dire sur quoi il est évoqué, c'est quand on a un tube, quand on a un succès et que le public attend cette vanne, attend ce sketch. Et
ce que disait Jonathan par rapport à ses interprétations chez Ruquier, en fait, ses personnages.
Oui, c'est quand le succès vous échappe un peu. Enfin, que c'est vrai.
Alors que toi, t'as plus envie de le faire. Ou que toi,
comment gérer ça? Il faut le donner au public quand même parce que on est là grâce à lui.
Moi, je me souviens notamment, c'était Damien Béziers, à chaque fois on me parlait de ça, et donc au bout d'un moment, on se dit bon, c'est un peu réducteur. Donc quand on m'a demandé de le refaire dans une émission, j'ai dit ok, je le fais, mais je le tue. Comme ça, on me redemandera plus jamais.
C'est faux, tu l'as fait, on n'oubliait pas les paroles.
Oui, mais c'était après cette émission, on m'a redemandé. C'était Dominique Farrugia, parce que c'est avec lui que j'ai démarré.
Qui peut tout te demander.
Et j'ai dit, évidemment, ok, je le fais, mais juste permets-moi un truc, à la fin, il y a un mec qui arrive et qui le tue. Comme ça, j'expliquerai, non, c'est fini.
Il est mort.
Il est mort. Voilà.
C'est malin.
vous aussi, ça vous arrive que dans des spectacles, en tout cas, dans la salle, quelqu'un se mêle. la fameuse réplique que vous faites à un moment donné en disant c'est pas
ta
un dialogue.
Ta gueule, c'est pas un dialogue, c'est ouais. un truc que je faisais au sonar quand j'ai démarré, mais ce qui est odieux, enfin, c'était hyper violent. Mais on sait ça avec Jean-Philippe de Tinguy, bref.
Même pendant l'amour, hein, elle dit
ouais,
ça.
Elle dit ça, bah ouais. Moi, ce que j'ai compris sur scène, c'est que quand tu montes sur scène dans une énergie, tu imbibes les gens dans la salle de ton énergie. Pas quand tu fais des immenses salles, mais quand tu fais des toutes petites salles, si t'arrives tendu, tu tends les 30 personnes en face. Si t'arrives détendu, tu détends et tout le monde te suit. Et donc, il y a ça, mais donc.
On ressent ça.
On ressent ça. Il y a un truc, les gens s'imbibent de l'énergie avec laquelle t'arrives et du coup. Prune, elle se crispe, elle crispe tout le monde. Alors que je pense que si t'es honnête et que tu lâches prise et que tu dis, ok, vous voulez ça? Sauf que ça, c'est ce que j'ai vécu la semaine dernière et ça me fait pleurer. Donc venez, on parle d'autre chose. Enfin, en fait, ouais, le stand-up réaction. Te permet d'enlever le quatrième mur et d'être en impro aussi, sans filtre et de
oui,
raconter
mais,
les vraies choses.
On a le sentiment que l'humour est une forme de protection pour se soigner des plaies, forme d'exutoire, de sortir aussi tous les mots que l'on peut balader. Et en même temps, c'est là où on est vraiment nu.
Ouais.
Et en danger.
Ouais. Mais
on
t'es sur scène, ouais. Donc t'es quand même sur une estrade un tout petit peu au-dessus de la réalité.
Et dans la lumière. Peux...
Bah, en fait, dès que tu mets des mots sur quelque chose, tu le transformes et donc tu vas vers la fiction et donc tu vas aussi vers la réparation. Enfin.
Ok.
Moi, j'ai pas trouvé mieux que de faire ça, en tout cas.
Très bien, mais et nous, ça nous va. Faut rien changer.
Faut continuer, ouais.
Jeanne et Gollery, ça, c'est une histoire qui est remplie de vannes, de sketchs, d'humeur, de personnages extrêmement bien joués. C'est bien réalisé aussi. Et puis, il y a en toile de fond quelque chose d'extrêmement sincère. Ça reste une histoire d'amour, ou plusieurs histoires d'amour qui s'entrechoquent et s'entrecroisent. Ça reste une découverte. Et puis surtout, la leçon dans cette histoire, c'est que c'est l'enfant qui va faire grandir l'adulte. Et c'est ça qui est génial, extrêmement émouvant.
Meilleure série à Série Mania.
Jeanne et Gollery sur OCS. OCS Max, si vous voulez voir les 8 d'un coup. C'est trop court d'ailleurs, hein, 22 minutes, c'est trop court. Ouais. Voici Tanguy Passion. Ouais.
Je trouve que c'est important de prendre des risques dans la vie. Par exemple, cet été, j'ai commencé le BMX et la bière le même jour. Donc, j'ai pas été très loin. Et avant-hier, j'ai même regardé RMC Story. À l'hôpital, ils m'ont demandé comment je m'étais foulé le pouce. J'ai répondu, RMC Story, je connaissais pas le numéro de la chaîne. J'ai dû faire plus, jusqu'à ce que je la trouve. Dans le lit voisin du mien, il y avait un type qui a cherché la chaîne Comédie numéro 80 sur Canal. Sa main était foutue. Il a fallu l'amputer. En gémissant, il a dit, en plus, quand je suis enfin tombé dessus, il diffusait le spectacle des Baudins. Enfin, les médecins pris de pitié l'ont bien sûr euthanasié. Donc, j'ai mis RMC Story, il y a une émission qui s'appelle Estelle Midi. Moi, j'aurais plutôt appelé ça Jean-Michel 23h10, mais vu que c'est à midi et c'est animé par Estelle Denis, bon, ils ont opté pour la facilité. Donc, l'émission est basique, il y a des gens autour d'une table qui causent, budget 14,20€, parmi eux, il y a Laurence Pio, ex-boss de Closer, c'est elle qui avait révélé en 2014 que François Hollande sortait la nuit en scooter, il allait voir Julie et parfois, en plus, livrait des sushis pour Uber Eats. Hein, on ne sait pas trop, mais c'était pour se faire un petit extra. Il y a Hugo Desnoyers, boucher parisien, surnommé, attendez, le boucher des stars, hein, quand Beyoncé a une petite envie de langue de bœuf, c'est lui qu'elle appelle. Et Perico Legas, critique gastronomique, il parle de nourriture. À la Fashion Week, un top modèle a dit une fois à propos d'un de ses livres, j'ai rien compris. Donc, Legas, son domaine de compétence, si vous voulez, c'est le pâté en croûte. Hein, il arrive à lancer un saumon sur une plancha à 110 mètres de distance. Mais lundi, il s'est exprimé sur les prénoms étrangers, alors que son avis a moins de valeur que le Bitcoin un jour de panne mondiale d'Internet. En gros, il a dit qu'il comprenait la proposition d'Éric Zemmour d'interdire les prénoms étrangers. Alors que lui s'appelle Perico. C'est pas non plus un Blaise de la Nièvre. Hein, si Zemmour passe, il va devoir se rebaptiser Gilou. Et là, je me suis dit, voilà, c'est ça notre époque. Tout le monde est spécialiste de tout. Un débat sur la peine de mort, il peut y avoir Smaïn, Nina des Kids United, un perchiste en e-sport sans bras qui a cartonné aux JO Paralympiques en s'élevant à 7 cm en se jetant en avant sur le sol, et Charles Consigny, qui est avocat, mais lui aussi parle de tout. Florian Philippot est devenu un expert des vaccins, Francis Lalanne aussi, alors qu'avant, son rapport à la médecine, ça a été d'acheter une fois des semelles orthopédiques pour ses bottes à la pharmacie. Et sur CNews, Karim Zeribi, un ancien élu, arrive également à parler de tout. Le retour d'Abba, il a un avis. Les talibans, un avis. La crise climatique, un avis. Dans un dîner, il peut parler seul pendant 107 heures. Je pense que même une fois clamsé, par réflexe, sa mâchoire continuera de bouger. Un employé des pompes funèbres dira à un autre, purée, c'est The Walking Dead, faut lui taper dans la tête avec une pelle. L'autre répondra, non, c'est bon, c'était juste un peu limiste. Et puis à la télé, le mélange des genres est total désormais. Prenez Hanouna. Bon, avant, les rôles étaient clairs. Il lançait de la farine. Dans un slip, il pouvait mettre 47 aliments. Les Restos du Cœur, à la sortie du plateau, vidaient le slip de tout le monde. Il repartait avec un conteneur plein. Bon, c'était la jaille, les cotillons, Pouet-Pouet Camion avec Kev Adams. Mais hier, il avait Jean-Michel Blanquer, Hanouna. Et en octobre, il sort un livre sur la France, écrit avec Christophe Barbier, autre type qui a un avis sur tout. C'est-à-dire que touche pas à mon poste. Un jour, il y a Blanquer, le lendemain, Nabila, il y a des chroniques humour, on est perdu. Le public, parfois, commence à chanter, vas-y, Jeannot, montre-nous tes fesses, vas-y, Jeannot, montre-nous ton cul. Et là, il y a Castex qui dit pardon, mais enfin, je suis venu parler de la réforme des retraites. Et là, Blanquer se retrouve quand même face à Benjamin Castaldi, je veux dire, qui n'y connaît rien en éducation. Moi non plus, hein. J'ai un fils que je mets à l'école le matin. La maîtresse me dit, vous qui êtes à la radio, savez-vous si c'est vrai qu'Anne Hidalgo va nous aligner sur les salaires des Émirats Arabes Unis? Et basta, quoi. Enfin, si j'ai Blanquer devant moi, je lui parlerai de quoi? De l'entretien de sa barbe, hein, histoire de dire un truc. Ensuite, je demanderai si je peux la toucher. Il répondra oui, puis ajoutera, mais qu'est-ce qui nous arrive, je dirais, je sais pas, tous ces poils. Enfin, ça me rappelle à la fois Jonathan Lambert et les reportages du National Geographic sur les loups. Je suis troublé. Puis on se mariera. Enfin, un rapport normal, quoi. Je veux dire, une relation saine, hein, en face de Blanquer. Mais moi, j'ai pas envie de voir Mathieu Delormeau. Seulement pour Blanquer, faire TPMP, c'est plus simple, hein. Il a devant lui 10 spécialistes de rien. Il déroule. Intellectuellement, c'est tellement light qu'il s'autorise 4 micro-siestes. À la fin, il a encore assez d'énergie pour enquiller sur 7 heures de scrap contre sa femme. Alors que 15 minutes en face à face avec un ou une journaliste spécialisé sur les questions d'éducation, là, il ferait moins le malin. La télé, c'est devenu le bar du coin, mais sans l'agneau. Le moindre mec qui a bossé un an au Figaro ou monté un site web que personne ne regarde se met à causer. Hein, c'est plus simple que de faire la télé. Hein. Il n'y a pas de reportage à lancer, le Réal peut aller faire pipi tout le temps, il peut avoir une vessie de 120 mètres carrés avec Stéphane Plaza qui fait les visites. Parfois, un médecin se met à dire « Ouais, Laetitia Hallyday, à mon sens, elle a refait sa vie un peu vite. » Le présentateur répond « Non, mais enfin, vous venez pour le Covid. »« Ah ouais, pardon, je sais plus. Enfin, on fait quand même pauvre Johnny, quoi. » Pirico Légas, c'est ça. En 8 jours, il s'est quand même positionné contre le tatouage. Selon lui, c'est une mutilation. Alors que non, c'est une erreur. Hein, quand on se retrouve à 55 ans avec un motif tahitien dans le dos alors qu'on a passé sa vie à Limoges, on a l'air d'un connard. Hein. Mais moi, j'ai un ami qui a 18 piges, s'est fait tatouer une grosse croix celtique avec écrit White Power. Ben, il hésite toujours à conclure en soirée zouk. Hein. Perico Legas a aussi dit que selon lui, la prime de rentrée scolaire ne servait pas qu'à acheter des cahiers. Hein. Et il a appelé à réhabiliter le mariage. Vous savez, le mariage, c'est ce moment unique où deux êtres s'unissent pour payer moins d'impôts. Hein, si en plus ils font un gosse avec la prime de rentrée, mais c'est le jackpot. Ouais. Bon, il a un avis sur tous les sujets, alors qu'il y a encore 3 ans, il revisitait le hachis parmentier dans sa cuisine. Il doit s'épuiser lui-même, et peut-être, enfin, à ce moment-là, il arrive qu'il se taise, mais pas sûr.
Merci, Tanguy, pas sûr. Jeune et Gaulerie sur OCS, la série créée par Agnès Surstel, co-signée avec Léa Domenac, et puis je ne l'ai pas dit, pardon, brillamment réalisée par Fanny Siné, qui est une actrice aussi, ouais, qu'on a vue dans Hard ou encore 10%, dans 10%.
Ouais, et qui a fait la Fémis en fait en réalisation, voilà, et qui avait réalisé beaucoup de courts-métrages, et une série sur Arte à laquelle j'avais participé à l'écriture qui s'appelait Loulou. Et elle est jeune, les projets qu'elle a fait, elle parlait de maternité avec vachement de tendresse, et donc ça paraissait un casting parfait pour réaliser la
ça fonctionne, ouais, ouais, ça fonctionne très bien. L'habillage aussi, la bande originale, on l'a entendu tout à l'heure, enfin une partie. Le casting, Jonathan Lambert et Agnès Surstel, nos invités, mais aussi Jeanne Pasquet, la gamine qui est absolument formidable, Marie Papillon qui joue Adé, qui est dingue de fraîcheur, de drôlerie, de justesse. Thomas Gloria, Paul Mirabel, Nordine Ganzo, Lison Daniel, Baya Cassini, Jérôme Lenôtre, Ophélia Kolb, Marie-Sona Condé, Jérémy Lévin, Ellie Benchimol, Lionel Lager, tout ce beau monde donc dans Jeune et Gaulerie. Tout le monde est juste à voir absolument avec, au-delà des prix, et tant mieux d'ailleurs qu'il y ait eu des prix dans un festival, mais j'aurais dit exactement la même chose même si vous n'avez pas eu le prix, parce que la qualité est au rendez-vous et ça fait du bien. D'autres choses dans la culture, oui. Leïla Kadourou-Déli.
On va parler d'un premier roman, Six pieds sous sur terre. Signé Antoine Dole. Ah. Est-ce que vous connaissez cet auteur? Nécessairement, il est connu pour une autre activité littéraire. Oui. Ouais, il a déjà vendu a écrit... 8 millions de livres.
Ouais, qui a écrit Mona le Vampire.
Un truc pour enfants.
Mortel Adèle.
Absolument, ah, absolument. C'est l'auteur de Mortel Adèle. On entend la Aldebert qui reprend ce titre. Il a vendu quand même 8 millions de livres. Et là, il s'est dit, ben voilà, j'osais pas, je vais passer à la littérature adulte d'une certaine façon, sans que ça soit érotique hein, pour autant, avec 6 pieds sur terre. C'est une rentrée littéraire qui est importante pour lui, parce qu'une fois qu'on a été assimilé, catalogué dans un exercice, alors il signe pas avec le même nom, Mortel Adèle, et sa carrière là d'auteur pour adultes, mais il essaie de se créer aussi son espace, qui est pas forcément simple de rencontrer un grand succès pour quelque chose et d'être entendu pour le reste. Est-ce que vous avez
d'où le changement de nom, j'imagine,
absolument,
aussi,
ouais,
qui est de confusion.
Est-ce que vous avez un livre qui vous rappelle l'enfance? S'il y avait un livre de votre enfance que vous avez conservé?
Agnès.
Lettre d'amour de 0 à 10 de Suzy Morgenstern.
C'est quoi l'histoire?
C'est une histoire d'amour, enfin, je sais même plus exactement le raconter. Ouais.
Lettre d'amour de 0 à 10.
Mais je sais que c'est encore dans ma bibliothèque aujourd'hui.
Ouais. En tout cas, ouais. t'as pas hésité à le.
Ouais, c'est un livre qu'on transmet.
À le citer.
Ouais, j'ai hâte. Enfin, oui. Bon,
moi, je lisais, mais pas affreusement peu, pas
mais il y avait pas
du tout
livre,
et c'est étonnant,
ouais. Ah ouais, mais pas du tout, et puis je m'y suis mis à 18-19 ans. Maintenant je rattrape, je lis beaucoup, mais je crois que je ne lisais, enfin je n'ai rien lu.
Et les histoires qu'on vous lisait?
Ah, les histoires qu'on me lisait, non, j'ai pas un souvenir comme ça qui m'a marqué.
Tous les soirs, mon père me racontait des histoires qu'il inventait, qui s'appelaient Plouf. Et Plouf, en fait, il avait vécu exactement la même journée que moi.
Non.
Sauf qu'à chaque fois, il tombait dans une flaque et ça faisait Plouf. Et je m'endormais toujours en fou rire pour ces histoires un peu nulles que je raconte à mon tour maintenant. Qui étaient de l'autre
façon. Ah si, pardon. Je suis désolé, non, ça me revient. La poule aux odeurs, voilà. Ma mère m'avait raconté l'histoire de la poule aux odeurs. À chaque fois, j'étais à fond dans l'histoire. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont cons de l'avoir tué.
Parlons de The Artist.
Ouais.
Des auteurs, compositeurs, interprètes qui seront en compétition. Alors déjà, je tiens à m'excuser parce qu'hier j'ai fait une énorme boulette en vous expliquant ce qui allait se passer ce samedi soir. Il y aura 10 candidats sur les 19 qui restent en course et 3 quitteront l'histoire. Voilà. Mmh. Il y en a 10 qui vont interpréter uniquement leur chanson originale. On va pouvoir les juger, vous allez pouvoir les juger et gratuitement là-dessus. Et seulement 3, enfin ce qui est déjà beaucoup par rapport aux 10, quitteront l'histoire de The Artist.
Et moi, c'est
les masterclass, c'est à
20h. Moi, ces artistes, je les vois tous les jours pour les masterclass à 20h sur Culture.
C'est trop
Box.
Court, hein, d'ailleurs. Et d'ailleurs. Que ce soit Clara Luciani ou Trio, ils ont eu le même réflexe, en disant c'est trop court.
On va revenir justement sur l'émission diffusée hier avec Trio. Trio qui nous a fait le bonheur de venir pour parler de la mélodie. Comment est-ce qu'on compose un titre? Il y avait beaucoup, beaucoup de questions. Et en fait, ils ont donné des conseils qui ont, je pense, décomplexé les artistes qui étaient présents en disant voilà, une mélodie, faut pas s'inquiéter, ça se retravaille. L'idée, c'est de la rendre encore plus efficace et parfois en enlevant des choses qui vous faisaient peut-être un peu plaisir.
Des fois, il faut aller chercher, tu vois, l'efficacité. Il y a une chanson qui s'appelle En marche, en replay, par exemple. La mélodie du couplet, elle faisait rue du Faubourg Saint-Honoré, enfermé dans son aquarium, dans ses appartements privés, monsieur peaufine ses réformes. Moi, je la trouvais super, cette mélodie.
T'es content?
Ma mélodie, elle est super. Arrivé en studio, on a commencé à la chanter et on s'est rendu compte que cette mélodie était beaucoup trop compliquée et du coup, elle perdait en efficacité par rapport au texte. C'est devenu un truc quasiment sur deux notes. Rue du Faubourg Saint-Honoré, enfermé dans son aquarium, dans ses appartements privés, monsieur peaufine ses réformes. T'as vu, elle est sur deux, trois notes, la mélodie.
Et efficacité.
Voilà. Et ouais, la rendre plus efficace, plus droite aussi, expliquait Christophe Malli, que vous avez entendu à l'instant.
Il y avait tout, Gizmo. Tout le travail aussi, guitare, piano était.
Ouais, sur le fait que lui jouait plutôt du piano, mais qu'en fait il s'est mis à la guitare, mais que finalement il sait pas vraiment jouer la guitare comme Gizmo, donc personne ne sait jouer la guitare dans le Trio, enfin si, le quatrième, mais qui n'est plus là. En gros, c'est l'histoire. Alors, composer une mélodie, composer une chanson, trouver ce rythme-là, on peut en composer une, deux, 15, 30, mais il y a un moment, ça peut être dur de se renouveler. Et là, vraiment, Trio a fait preuve d'une honnêteté qui est très très rare, qui mérite d'être souligné, écoutez-les.
Des fois, quand t'es en panne d'inspiration, quand tu galères, tu tournes un peu en rond parce que t'as toujours les mêmes mélodies, etc. Et il faut pas hésiter à essayer d'aller chercher ailleurs des suites d'accords qui existent déjà chez d'autres chanteurs, chez d'autres gens. Parce que c'est pas du plagiat, mais tout d'un coup, ça permet de pas toujours tomber dans les mêmes accords, dans les mêmes choses.
C'est honnête de dire ça.
Ça déculpabilise à fond et ça a beaucoup aidé les artistes qui étaient vraiment yeux grands.
Qui ont même dit en écrivant, je m'interdis d'écouter d'autres chansons pour pas être influencé, pour pas avoir le sentiment de piquer quelque chose.
Et en plus, dans ces moments-là, quand j'écoute plus de musique, j'arrive plus à créer, bizarrement. Donc ça veut dire que ça se nourrit, que ça s'inspire.
C'est la nuance entre l'inspiration et le vol.
Et le vol, absolument. Donc c'était une super séance. Je remercie encore Trio parce qu'ils ont été géniaux, d'une générosité folle. Et ce soir, on sera avec Boris Berman.
Alors c'est sur la chaîne 147 de Canal+. Sat, France 4, qui devient Culture Box.
Ou la 14.
Sinon, la TNT, voilà. C'est le canal 14.
C'est France Boris 4 Berman, en journée et Culture Box le soir.
L'homme, entre autres, de Gabi Ogabi pour Bachung, qui va venir expliquer
comment structure une chanson, comment on écrit pour les autres aussi, parce que c'est pas exactement la même histoire.
Bah justement, écrire pour les autres, Agnès Hurstel, mais vous jouez aussi dans Trop d'amour, un film qui sortira en octobre.
Oui, mi-octobre sur Canal+, un film que j'ai coécrit avec Francky Vallac.
Et il y a également L'Auberge espagnole où vous coécrivez avec Lapiche.
Ouais, ça on continue d'écrire, ouais.
C'est pas encore fini.
Non.
D'accord. On vous verra au cinéma dans On sourit pour la photo, oui. Avec Pascal Arbillot et Jacques Gamblin, que vous évoquiez tout à l'heure, dans Z comme Z, avec ce fameux plan séquence d'une demi-heure. Il l'a fait ou pas, Michel Hazanavicius?
Oui, bien sûr.
C'est pour l'anecdote, je l'ai appelé pour avoir le droit d'utiliser The Artist. Ouais. Et au moment où je l'appelle, il décroche, je te dérange, il me dit non, je suis en train de tourner un plan séquence d'une demi-heure.
Ouais,
c'est la phrase qui vient de d'où tu décroches quand tu fais un plan séquence d'une demi-heure. Mais il a été fait.
C'était extraordinaire. Ouais.
Génial.
J'ai adoré.
Quoi, une parodie de zombie, comme on peut
dire. Une parodie d'un film de zombie japonais, ouais.
D'accord. Et puis R, le R de R Jonathan Lambert, c'est Rodolphe, ce one-man show que vous allez porter à nouveau du 18 novembre au mois de décembre.
31 décembre à La Scala, absolument.
D'accord. Ouais. Super.
On réveillonne ensemble.
Un nouveau spectacle.
Mmh. Voilà. Et donc vous présentez totalement en rajoutant ce Rodolphe à Jonathan Lambert.
Bah oui, c'est ce que j'explique. Effectivement, c'était le prénom auquel tenait absolument mon père à ma naissance. Ma mère voulait Jonathan. Donc, ils n'ont pas réussi à tomber d'accord. Donc, Rodolphe, Jonathan, c'est un prénom composé, en fait. Et depuis qu'il est parti, je me suis dit, voilà, Rodolphe est mort, vive Rodolphe. Donc, je me le suis réapproprié.
Et c'est avoir absolument des excuses à présenter, Morgane.
Mais oui, désolée pour Agnès et Jonathan Lambert. J'ai eu Catherine Deneuve à la pause. On va écrire un truc ensemble. Ça va s'appeler Vieille et plombante. Et on va tuer le game si on a le temps. Désolée pour nos auditeurs qui pensaient que l'humour était un monde cool avec des gens cool et bienveillants. Eh bien, pas du tout. C'est la guerre. D'ailleurs, Daniel, à votre avis, il est où ce matin? Au Père-Lachaise. Allez, 25. Allez, de rien.
Jeanne Nicolery sur OCS, OCS Max. Merci et bravo,
merci
Agnès sur
Stade. Merci
beaucoup. Merci, Jonathan Lambert. C'est à voir et à revoir donc sur OCS cette série, parce que ça va très très vite en termes de vannes aussi, et ça supporte la rediffusion, parce que j'ai eu la chance de pouvoir la voir dans le courant de l'été et de la revoir là pour préparer l'émission. Ça supporte totalement la rediff, et avec bonheur. Demain, nous serons ici avec Philippe Djian. Justement, on parlait des chansons et des auteurs de chansons, auteur de Stéphane Escher entre autres. Philippe Djian vient avec Double Nelson, son nouveau roman, et sera dans la bande originale. Bonne journée et à tout à l'heure pour la Masterclass. Oui.